remercier pour l'invitation et la marque de confiance et vous présenter aussi les salutations de la rue Sonra, qui est l'église que nous fréquentons habituellement. Alors quand on est responsable de la prédication et qu'on a un thème libre, on a toujours le problème du choix. Et en ce début d'année, il est de coutume de formuler des vœux, et je me suis demandé quels vœux on pourrait bien formuler pour 2019. Et dans le contexte pour le moins agité que nous connaissons en France depuis 2 mois, je me suis rappelé quelques paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Alors que Paul est en prison, il dit à plusieurs reprises aux Philippiens « Réjouissez-vous », au point que cette épître sera souvent appelée l'épître de la joie. Et il se dira lui-même « réjoui et comblé ». Alors je me suis simplement posé cette question, peut-être comme vous d'ailleurs, comment peut-on se réjouir quand on est en prison ? Comment peut-on se dire comblé et reconnaissant dans de telles circonstances ? Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais simplement resituer un peu le contexte de l'épître aux Philippiens. C'est l'une des épîtres dites de la captivité. Paul est en prison, probablement à Rome. Il a été accusé par des Juifs d'être un agitateur, de prêcher contre le temple, contre la loi de Moïse. Et il a donc fait appel à la justice romaine pour se sortir des griffes du tribunal juif. Et de la résidence où il est assigné, il écrit cette lettre à l'église de Philippe qu'il a fondée lors d'un voyage missionnaire. Et le texte nous révèle que Paul considère les Philippiens comme des collaborateurs, des partenaires actifs de son ministère. Il dira au chapitre 1, verset 7, « Vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. » Et on verra que cela participe à la joie de l'apôtre Paul. Cette lettre n'a pas pour but principal de corriger des erreurs doctrinales, mais d'entretenir des liens d'amour et la collaboration qui unissent Paul et cette église. Paul veut les encourager et les encourager à l'imiter dans ce qu'il appelle une course vers le salut. Au chapitre 3, verset 7, il dira « Suivez tous mon exemple ». Je vous invite à lire donc dans Philippiens 4, les versets 4 à 20, dans la version du Semeur. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, et ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Église, lorsque j'ai quitté la Macédoine, Aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et j'arrêterai ici la lecture de la parole. De quoi est-il question en gros ? Je commencerai par relever quelques expressions, quelques exhortations de Paul. Réjouissez-vous. Faites-vous connaître par votre amabilité. Ne vous mettez pas en souci. Exposez vos besoins en disant votre reconnaissance. Veillez sur vos pensées. Et il nous donne des critères. La justice. Pardon, j'ai perdu ma ligne. La vérité, la pureté, l'amour, le respect, la louange. Et la conséquence, la paix gardera votre cœur. Ça fait du bien de lire ces paroles et quel contraste avec tout ce qu'on entend depuis deux mois, notre actualité. Est-ce qu'il est besoin d'en dire plus ? Là où Paul nous parle de contentement, nous n'entendons parler que de protestations, de revendications, de violences, parfois d'insultes, parfois de menaces, parfois d'insurrections. Alors rassurez-vous, mon propos ce matin, c'est pas de commenter le mouvement des Gilets jaunes ou de prendre position, mais simplement de nous laisser interpeller par Paul et par son comportement face à des situations aussi difficiles pour lui, qui, sans être identiques à celles que j'évoquais, laissent apparaître quelquefois des parallèles. De nombreux Français ne sont pas contents de leur situation économique et sociale, leurs fins de mois sont difficiles, et c'est une vérité. Paul, au moment où il écrit cette lettre, est emprisonné, empêché de poursuivre son ministère librement, de travailler pour subvenir à ses besoins, de rencontrer qui il veut. En plus, il vit dans l'attente de son procès. Et pourtant, il nous dit au verset 10 qu'il se réjouit, qu'il a appris à s'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Lui aussi aurait des raisons de protester, d'être inquiet. Alors on peut se demander, mais comment fait-il pour se réjouir dans sa prison alors qu'il est là injustement et qu'en fait les circonstances l'ont amené à une escalade et le voilà à Rome? Comment peut-il se dire comblé quand il est privé de sa liberté de circulation, d'action et qu'il risque d'être condamné à mort? J'ai partagé le texte que nous avons lu en deux parties. Les versets 4 à 9, où Paul adresse des exhortations aux Philippiens, et les versets 10 à 20, où il dit sa reconnaissance aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est la première exhortation de Paul. Réjouissez-vous, mais est-ce qu'on choisit d'être joyeux ? Est-ce qu'il suffit de le décréter en disant « Ce matin, je me lève, c'est une journée où je vais être joyeux ». On peut toujours essayer, ça s'appelle la méthode Coué. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je pense que tout est là. Pourquoi dans le Seigneur ? Dieu nous a donné des raisons de nous réjouir. Il nous a pardonné. Il nous a adoptés. Il nous a régénérés. Ça a été évoqué dans des prières. Il nous accompagne. Et nous savons que cela ne changera jamais, car Dieu et ses promesses ne changent pas. La joie, au sens courant, c'est souvent une émotion éphémère que nous éprouvons à l'occasion de circonstances heureuses, mais qui malheureusement s'épase vite. La joie dont parle Paul est au contraire une conviction profonde que Dieu est maître de tout, et c'est une certitude immuable. Ce même verset 4 dans Parole vivante est traduit ainsi « Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. » Je ne sais pas vous, mais moi cette phrase me questionne, peut-être vous aussi. Qui est Dieu pour moi ? Réjouissez-vous dans le Seigneur, mais réjouissez-vous en qui ? Je ne vais pas faire une interrogation. Mais qui est Dieu pour moi ? Ma réponse, c'est il est mon Créateur, il est mon Sauveur, il est mon avocat auprès du Père. Son Esprit en moi est mon conseiller, mon consolateur. Mon Dieu est celui qui règne sur toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Mais est-ce que je peux aussi l'appeler mon Seigneur ? Mais revenu cette parole de Jésus dans Luc 6, verset 46, où il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il y a des mots qu'on emploie souvent, sincèrement, ça finit quelquefois par être une habitude, on appelle souvent Dieu notre Seigneur, mais est-ce qu'il l'est vraiment dans notre façon de vivre ? Rappelons-nous aussi l'exemple du prophète Habacuc, que j'avais eu l'occasion de prêcher l'année dernière sur ce livre. Habacuc qui connaît Dieu, qui connaît sa sainteté, sa fidélité, sa justice, et qui ne comprend pas pourquoi Dieu annonce l'invasion de Jérusalem et la déportation du peuple à Babylone. Mais parce qu'il connaît Dieu, justement, il arrive à la fin de son livre à dire « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». La source de la joie est en Dieu, pas dans nos circonstances ou dans nos biens matériels. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Nous avons de bonnes raisons d'être joyeux, même si, tout humain que nous sommes, c'est pas toujours facile de se réjouir. 1 Pierre 1, je vous le lis dans Parole vivante. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle, en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux, pendant qu'il vous garde par sa puissance dont vous acceptez l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Fin de la citation. Dieu nous a aimés le premier, d'un amour sans limite, jusqu'à donner son Fils unique pour nous ramener à la vie, une vie nouvelle, pour nous donner une espérance, celle de vivre l'éternité en sa présence. Que Dieu nous aide à nous rappeler tout cela, tout ce qu'il a fait, à nous réjouir et à être reconnaissants. Paul continue en disant « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». D'autres versions traduisent douceur par amabilité, bonté, modération. Cette parole de Paul nous parle de l'image que nous renvoyons aux autres. Dans votre entourage, vous avez des gens qui ont des attitudes très différentes. Vous avez des gens positifs, plutôt allant de l'avant. Vous avez des gens plutôt chagrins, plutôt... Qu'est-ce qui donne envie de connaître Dieu ? Je crois que Paul nous demande de réfléchir ici à l'image que nous renvoyons. Une image de douceur, d'amabilité. En cherchant dans d'autres traductions, il y a plein de termes. La charité, la clémence, la tolérance, la bénignité. J'ai trouvé dans un commentaire ce résumé, une humble bienveillance qui donne la patience de supporter l'injustice et ses mauvais traitements sans désir de vengeance, sans amertume. Et toutes ces qualités nous viennent de Dieu. Vous connaissez comme moi les fruits de l'Esprit, dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et Paul continue à encourager les Philippiens en leur disant « Le Seigneur est proche ». Il veut les inciter et les aider à prendre patience. Vous aussi, probablement, à certains moments, le temps vous semble long devant certaines situations. Mais même si nous ne savons pas quand, nous savons que tout cela aura une fin et que Jésus reviendra pour nous prendre avec lui dans l'éternité. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas facile, hein ? Pas facile, ne vous inquiétez de rien. Appuyez-vous sur une foi confiante dans le Seigneur Jésus. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, nous rappelle que s'inquiéter, ça ne sert à rien. On ne peut rien changer aux choses simplement par nos inquiétudes. Alors, il y a des moments où, en lisant ces paroles de Paul, je me dis, mais alors, on doit tout accepter comme ça, on doit rester muet, on doit attendre. Paul nous dit aussi, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. La foi, ce n'est pas tout accepter comme ça vient, comme ça, en disant, Dieu l'a voulu et on ne fait rien, quoi. On subit. Faites connaître à Dieu vos besoins, mais n'oubliez pas la reconnaissance. Je crois que la reconnaissance, c'est un antidote contre l'anxiété. Prier, ce n'est pas presser Dieu absolument de nous exaucer, mais c'est lui dire nos besoins, notre confiance et notre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est Ésaïe qui dit au chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Puis Paul nous dit de veiller sur nos pensées. Je pense que comme moi, il y a des moments où vous laissez vos pensées s'égarer, puis on tourne vite en rond. Je veux dire, on est perdu dans nos pensées, on dit, et puis on n'est plus objectif. Il y a des choses qui... l'arbre qui nous cache la forêt. Dans la version que je vous ai lue, il est dit « Nourrissez vos pensées par tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et digne de louange. » Dans tout ce qu'on entend, effectivement, il y a un tri à faire. Si vous passez tout ce que vous entendez au filtre que vient de nous donner Paul, il y a finalement peu de choses qui passent à travers le filtre. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la notion de vérité a beaucoup évolué en quelques années. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire « maintenant c'est à chacun sa vérité ». Quel paradoxe avec « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Non, chacun sa vérité, chacun son chemin, on l'a même chanté. La crédibilité d'une parole, c'est plus nécessairement appuyée sur la compétence de celui qui la donne, mais du nombre de fois où elle est relayée dans les réseaux sociaux. Que d'emballement et de désordre causés par ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Et c'est d'autant plus important de se poser la question de la vérité qu'aujourd'hui, n'importe qui peut publier n'importe quoi, c'est relayé. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais finalement, on peut manipuler l'opinion comme ça. Facebook, par exemple, a changé son algorithme de manière à ce que ce soit les gens qui pensent comme vous qui apparaissent en premier sur les pages. Donc vous êtes de plus en plus convaincus que vous avez raison, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à partager la même opinion. Je pense comme ça, ceux qu'on me présente pensent comme moi, donc on doit avoir raison. Ça doit être vrai. Prenons exemple sur les chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tout ce qu'on entend, si on le passe à la lumière de l'Évangile, ça peut changer notre point de vue. Est-ce que c'est juste ? Lorsque je prends position dans un débat, lorsque je prends une décision, est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'elle sert mon intérêt ? Est-ce qu'elle sert les autres aussi ? Est-ce que c'est pur ? Est-ce que j'agis sous la colère, par intérêt, par vengeance ? Vous avez probablement été frappé comme moi d'entendre que certaines personnes qui sont partis manifester dans un esprit très calme et pacifique, se sont retrouvés en garde à vue devant un tribunal en ne comprenant pas ce qu'ils avaient fait, comment ils en étaient arrivés là. On doit se garder de tout cela, de la contamination. C'est Paul qui donne deux conseils à Timothée, où il lui dit « N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. » Fuis les passions, là c'est de la jeunesse, puisque Timothée est jeune, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Un autre critère, c'est est-ce que mes pensées sont inspirées par l'amour ? Est-ce qu'elles suscitent le respect, l'approbation ? C'est une question à nous poser souvent pour vérifier si nous sommes sur le bon chemin. Dieu approuverait-il ma conduite ? Mes paroles. Vous vous souvenez de Jésus a quelquefois repris ses disciples, qui pourtant étaient animés de plein de zèle et de bonnes intentions, demandant l'autorisation de chasser des gêneurs et même d'appeler la foudre. Ou alors de trouver que c'était vraiment du gâchis de répandre ce parfum là sur les pieds de Jésus. C'était pas à faire. Ou alors de défendre Jésus par la force au moment où il est arrêté. Tout ça, c'est des sentiments humains. On aurait peut-être fait comme eux. Et pourtant, Jésus ne leur a pas donné raison. Est-ce que mes pensées sont inspirées par l'amour ? Et Paul ne se contente pas de prêcher la bonne parole. Il va plus loin, il leur dit « Mais soyez mes imitateurs ». Il ne se contente pas d'exhorter, il donne l'exemple avec cette promesse. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Nous arrivons à présent à la deuxième partie de notre texte où Paul nous parle du contentement. Paul commence par remercier l'église de Philippe pour le soutien matériel, mais aussi pour le soutien spirituel. Il a plusieurs raisons d'être content. D'abord parce qu'il est empêché de travailler, il ne peut plus subvenir à ses besoins. L'argent collecté par les Philippiens est donc le bienvenu. Il leur dira au verset 14 « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse ». Mais il se réjouit aussi de la fidélité des Philippiens. Ils ont déjà à deux reprises aidé Paul quand il était à Thessalonique. Et il se souvient aussi de l'attention qu'ils ont toujours portée à Paul. Elle a toujours été constante, même si elle n'avait pas toujours trouvé l'occasion de se manifester parce qu'on apprend que les Philippiens n'étaient pas riches. Mais Paul veut aussi expliquer que ce n'est pas le soutien matériel qui le réjouit le plus, mais ce qu'il traduit de l'état spirituel de l'Église de Philippe et des liens profonds et solides qui unissent Paul à l'une des églises qu'il a fondée et qui tient, on l'a dit, une place particulière dans son cœur. Aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Et vous savez que c'était une fierté de Paul de ne pas dépendre, justement, de l'argent des communautés qu'il avait fondées. Vous seul l'avez fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. Paul rappelle ici qu'il n'est pas intéressé au sens pécunier du terme. Il n'en veut pas au bien des Philippiens. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, dit-il, car j'ai appris, et le mot apprendre est à souligner, en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. Alors, apprendre à vivre dans le dénuement, ça on comprend que ce soit nécessaire de l'apprendre. C'est pas ce qu'on a envie de connaître naturellement. Mais est-ce qu'il faut aussi apprendre à vivre dans l'abondance ? Paul a voulu citer les deux, il les a mis sur le même plan. Celui qui vit dans l'abondance a aussi des responsabilités quant à la façon qu'il a de gérer cette abondance. C'est si facile de devenir indifférent aux autres quand tout va bien pour nous. Et il est parfois tentant d'en vouloir encore plus. Il suffit de regarder l'actualité, des gens qui ne manquent de rien et qui font tout pour en avoir plus. Alors Paul a peut-être peur d'insister trop en leur disant « Bon, c'était pas l'essentiel ce que vous m'avez offert », donc il leur dit quand même « Bon, vous avez bien fait de m'aider, mais votre don a été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. » En montrant concrètement leur amour pour Paul et le soutien dans son ministère, les Philippiens ont avant tout fait une offrande à Dieu. Lorsque nous prenons soin les uns des autres, nous réjouissons nos frères et nos sœurs, bien sûr, mais nous réjouissons aussi le cœur de Dieu. Ça peut changer des choses parce que on n'est pas toujours aussi reconnaissant qu'il faudrait peut-être vis-à-vis des choses dont nous sommes au bénéfice. Peut-être que des gens ont été déçus en disant « j'ai fait ça pour lui », puis il a déjà oublié. Dieu lui n'oublie pas. Dieu est témoin de tout ce que nous faisons, il sait dans quel état d'esprit nous le faisons, si c'est sincère ou si c'est intéressé, ça ne lui échappe pas. Il n'oublie aucune de nos actions. Et il en tient compte. Dans le livre de Malachie, on peut lire cette parole de Dieu, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison, pardon. » Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu n'est pas aveugle, Dieu voit ce que nous faisons. Et Paul dira au verset 19 du chapitre 4, « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, il n'y a plus d'offrande ou de sacrifice dans le temple. Mais Hébreu nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Luc nous l'a relu en introduction du moment de scène. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, et c'est aussi cela qui réjouissait Paul chez les Philippiens. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, c'est Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous réconcilier avec le Père. C'est notre principale source de joie et de contentement, et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. C'est la conclusion de Paul. Et nous en arrivons à ma conclusion. Pour nous réjouir dans toutes les circonstances, comme Paul nous y invite, il nous dit, sachez bien qui est Dieu, un Dieu saint, juste, aimant, tout-puissant. J'aime à me rappeler cette image du Père qui se réjouit et fait la fête quand le Fils prodigue revient à la maison. Mais Dieu est aussi un Dieu souverain qui n'a aucun compte à nous rendre. Sachons nous en souvenir aussi. Comme Paul l'a souligné, cela s'apprend, notamment en ouvrant sa parole. Il nous faut apprendre aussi à faire confiance à Dieu, comme le prophète Habacuc, dont on peut presque résumer par un seul verset, « Le juste vivra par la foi ». Paul nous invite aussi à veiller sur nos pensées, nous interroger sur ce qui est vrai, juste, pur, digne de respect et d'approbation, à vivre aussi dans le contentement, comme il le fait lui-même dans des circonstances pourtant difficiles. Avant, dans l'Épître, au chapitre 2, versets 14 et 16, il dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. » Encore cette image du témoignage par notre contentement. Ce contentement, c'est la marque de la confiance que nous plaçons en Dieu. Quel meilleur témoignage. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant toute votre reconnaissance. Alors, quel vœu pour 2019 ? Eh bien, que ces paroles de Paul nous aident à discerner comment honorer Dieu chaque jour, dans une société troublée qui manque de repères, et que Dieu nous aide à discerner ce qui est justement pur, noble, juste, digne d'amour et d'approbation, qui mérite respect et louange. Que nous sachions lui faire part de nos aspirations, de nos besoins, sans oublier d'être reconnaissant pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, et pour ce qu'il fera aussi. Bonne année 2019 à chacun d'entre vous.